le magazine des Nations Unies.
Nouvelle épidémie à virus Ebola, déclarée dans le territoire de Beni au Nord Kivu, la MONUSCO et le gouvernement organisent de concert la riposte. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, en appui au coaching des femmes leaders et candidates aux futures élections de la province du Kasaï central. Une session de formation de ces femmes a été organisée du 30 juillet au 3 août 2018 à Kananga. Les détails dans cette édition avec l'invité et la nouvelle de province. Enfin, l'accès à l'eau potable pose problème dans les communes périurbaines de la ville de Kinshasa. L'ONG internationale Oxfam s'implique pour pallier au manque de cette denrée essentielle avec la construction des forages. Dans cette édition, coup de projecteur sur l'expérience pilote du village Chikapa dans la commune de Mangafula.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bienvenue à tous. La grande actualité cette semaine, c'est la déclaration de la 10e épidémie du virus Ebola dans le territoire de Beni au Nord Kivu, une semaine seulement après la fin de celle dans l'Équateur. A cet effet, une délégation conjointe, gouvernement congolais, MONUSCO, conduite par le ministre national de la Santé et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, s'est rendue jeudi dernier sur place en vue de mettre en place les différentes composantes pour la riposte. Le numéro 2 de la MONUSCO, David Grassley, félicite la promptitude du gouvernement congolais dans cette lutte et annonce que la MONUSCO reste disponible pour un appui logistique et sécuritaire. Il est au micro de Christian Mapendano.
Je suis venu pour accompagner le ministre de Santé qui est là pour organiser la réponse. Tout d'abord, je voudrais féliciter le gouvernement pour cette réponse rapide. Il est venu avec des équipes, avec un laboratoire. On va visiter Maguina. Tout ça veut dire que la réponse est déjà en cours. MONUSCO va accompagner cette riposte. On va donner surtout assistance logistique sur le côté logistique et s'il y a un besoin, un appui sur le côté sécuritaire. Donc nous sommes là pour écouter, pour savoir plus les besoins et une fois que nous avons tous ces détails, on va commencer la mise en œuvre de notre appui. Je suis venu avec une équipe de Goma et Kinshasa, et aussi avec les humanitaires qui sont venus aussi de voir comment on peut organiser ça le plus rapidement possible.
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, le ministère du Genre, Enfants et Familles, avec l'appui de l'ONG internationale IPAS, Health Access Rights, a lancé officiellement lundi dernier la campagne de vulgarisation du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, autrement dit protocole de Maputo. C'est au cours de la conférence de presse animée par la ministre du Genre, Enfants et Familles. Ce document demande aux États africains de tout mettre en œuvre pour que les droits de la femme soient réellement respectés. Cette campagne intervient après l'acte d'adhésion à ce protocole par la RDC et sa publication au journal officiel. Jean-Pierre Lali Coco pour les détails.
Le protocole de Maputo, adopté par le chef d'État et de gouvernement en 2006, est un texte qui met un accent particulier sur les droits de la femme, sur au moins 8 thématiques qui vont de l'égalité et la non-discrimination aux droits économiques, sociaux et culturels, en passant par la protection de la femme, de ses droits à la santé et à la reproduction. À ce jour, plus de 36 États africains ont ratifié le protocole de Maputo et se sont engagés à promouvoir les droits des femmes, tandis que la RDC y a adhéré en 2008, avant que le texte soit publié au journal officiel 10 ans après, soit le 14 mars 2018. Pour vulgariser ces protocoles, la ministre Chantal Safou a annoncé la mise sur pied d'un cadre de suivi et d'évaluation qui aura pour tâche
d'assurer la compréhension des activités liées à la vulgarisation du protocole de Maputo à travers le pays et de partager l'information avec toutes les parties prenantes.
S'agissant de l'avortement médicalisé de la femme dû au viol, la ministre Chantal Safou précise.
Lorsqu'elle est violée, le protocole prévoit qu'on puisse l'assister médicalement.
Le lancement de cette campagne tombe à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Une délégation de l'Union africaine est déjà dans nos murs pour fêter comme il se doit cette journée avec le peuple congolais.
Nous le disions dans le sommaire, l'accès à l'eau potable dans les zones urbano-rurales de Kinshasa pose problème. Le manque de cette denrée vitale entraîne des maladies d'origine hydrique et des mains sales qu'on éviterait bien dans la capitale. Les organisations humanitaires s'impliquent pour pallier ce manque. C'est le cas de l'ONG internationale Oxfam femme qui expérimente un projet pilote de forage alimenté par l'énergie solaire, plus autonome dans le village Chikapa de la commune de Mongafula, à 5 km de pompage, dans la périphérie de la capitale. Jean-Pierre Lalicoco s'est rendu sur place. Suivez son reportage.
L'eau coule à flot dans 5 bornes fontaines d'un forage construit par Oswam Atikapa, un village quasi enclavé de la commune de Mongafula, à 5 km de l'arrêt pompage. Dès 6 heures, des longues colonnes d'enfants et de femmes, bidons de 25 kg à la main, se forment tout autour du forage. Alors qu'Oswam destinait ce projet à 200 ménages, aujourd'hui, l'unité procure de l'eau potable à plus de 8000 âmes dans ce coin perdu de la périphérie de la capitale. L'ingénieur Justin Kitabungi, agent à Oswam, est responsable du projet.
Nous savons voir que le besoin est là. Ce que nous avons fait, c'est prévu pour 200 ménages. Donc au-delà des 200 ménages, il serait bien de faire un autre projet pour arriver à desservir les surplus des ménages.
La détermination d'Oswam est d'autant plus grande qu'il fallait plusieurs mois d'efforts pour faire aboutir le projet. L'ingénieur Gislain.
La grande difficulté ici reste l'accessibilité. Vous voyez que nous sommes dans la périphérie de Kinshasa. Pour venir ici avec tout le matériel que vous voyez ici, ça n'a pas été facile. Il travaillait en saison de pluie. La route était dans une étreinte vraiment calamité.
Son collègue, Olivier Makita, coordonnateur de hygiène et assainissement dans les provinces ouest, explique la genèse, mais aussi le financement du projet.
Le projet, comme étant un projet pilote, c'était de tirer des leçons pour voir comment étendre et avancer. Donc on tournait tout autour des 400-500 000 $.
L'engouement vers cette réserve d'eau n'offusque guère Madame Julienne Bokonda, relais communautaire et gestionnaire du forage. Femme pleine d'initiatives, mère de famille et veuve, elle a daigné céder une portion de sa parcelle au projet. Madame Julienne dit tous les biens, mieux les avantages que procure le projet.
Et les maladies là diarrhéiques, les maladies là hydriques, les taux vraiment abaissés.
Cette femme débordante et d'énergie ne se limite pas là. Elle mène sa communauté à s'approprier au quotidien le projet et ce, à travers un petit comité de gestion. Un seul forage, c'est peut-être une goutte d'eau dans un océan de besoins. Mais les gestes d'Oswam suscitent beaucoup d'espoir dans cette communauté de plus de 8000 âmes, quasiment oubliées dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Ce projet contribue à leur bien-être et à leur santé. Oswam vient donc de donner le ton. Il faut des moyens et aussi un plaidoyer pour que ce genre de projet soit multiplié tant dans la capitale que dans les provinces de la RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, l'ONU-SIDA et le CORDAIDS se félicite de la promulgation vendredi 20 juillet dernier de la nouvelle loi portant protection des droits de personnes vivant avec le VIH-SIDA. Cette loi qui modifie et complète celle du 14 juillet 2008 met un accent particulier sur le dépistage des mineurs et adolescents. Le processus de plaidoyer du consortium de la société aux deux chambres du Parlement a été expliqué à la presse au cours d'une séance de restitution mardi dernier à Kinshasa. Maître Serge Tamundele de la clinique juridique revient dans cet entretien avec Jean-Pierre Lalicoco sur l'importance du dépistage des jeunes et des articles concernés dans cette loi. Suivez.
Maître Serge Tamundele, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous intéressez-vous au dépistage de jeunes en ce qui concerne la VIH-SIDA?
Le dépistage de jeunes, pourquoi? Parce que il a été constaté aujourd'hui par rapport à la riposte au VIH que la tranche d'âge de mineurs ou de enfants, dont des 19 à 17 ans, sont très exposés au VIH. Et nous avons un plan stratégique national de lutte contre le VIH actuellement, génération 2018-2021, qui prend en compte la question des jeunes. Et ces constats de la prévalence du taux de VIH auprès de jeunes posent problème dans notre société. Mais de l'autre côté, il a été constaté une barrière légale par rapport à ce dépistage sur un mineur. C'est comme ça que la société civile estime, pour donner des réponses efficaces à cette pandémie, il faut prendre en compte la question de mineurs par rapport au dépistage.
Et 10 ans après sa promulgation, la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH vient d'être modifiée par une autre loi promulguée par le chef de l'État. Alors, quels sont les articles qui sont concernés par cette modification de loi?
On remercie le chef de l'État parce que qu'il vient encore une fois de plus promulguer cette loi qui modifie et qui complète la loi 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec VIH. Là, il y a 4 articles qui ont été touchés. L'article 37 qui concerne le dépistage des enfants ou de mineurs à VIH, l'article 39 qui concerne l'annonce de l'examen du VIH fait sur un mineur, l'article 41 qui sanctionne tout comportement de transmission à VIH à autrui, et enfin l'article 45 qui réprime quiconque transmet le VIH à autrui de façon délibérée ou volontaire.
Oui, et maître, justement, l'article 45 a été tout simplement abrogé. Dites-nous pourquoi.
L'article 45 a été supprimé à cause de certaines raisons qui sont évidentes, notamment sur le plan international. Il y a des éléments de réponse qui font que toutes les lois du monde qui punissent le VIH sont contre-productives en matière de la réponse efficace. Et sur le plan national, il a été analysé que nous disposons d'autres lois qui répriment sévèrement ces comportements criminels de la transmission à VIH, et on pourrait évidemment se référer à d'autres dispositions d'ordre général. La disposition d'abord de la Constitution en tant que la loi fondamentale qui réprime toute forme de la discrimination à l'endroit ou à l'égard de la personne et qui trouve son fondement dans cette constitution, mais également il y a donc l'article 45 qui réprime. Or, le fait de condamner, de criminaliser le VIH aggrave la vulnérabilité, aggrave la stigmatisation, la discrimination. La loi fondamentale interdit toute forme de discrimination à l'égard de la personne. Et donc, cette loi ne peut jamais avoir cette disposition en son sein parce que ça ne va pas favoriser la lutte contre le VIH. Les gens vont se replier, les gens vont se cacher, les gens ne vont pas se faire dépister parce qu'ils connaîtront leur statut et l'élément volonté va être prouvé par rapport à ça.
Pour terminer, maître, on a constaté une sorte de contradiction entre les articles 37 et 39 dans cette nouvelle loi. Comment, dans la pratique, on peut lever cette contradiction?
Il n'y a pas vraiment contradiction comme telle, mais simplement la volonté de la société civile en travaillant pour ce changement de cette disposition était justement que la loi permet à ce qu'un mineur puisse se faire dépister avec ou sans consentement de parents ou du tuteur légal. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous félicitons nos parlementaires parce qu'ils ont pris en compte 4 articles. Nous félicitons le chef de l'État et à qui a promulgué la loi. Mais le problème se trouve à l'article 37 qui n'a pas été changé pour des raisons évidentes pour tout juriste. D'abord, il y a le problème de la capacité du mineur de décider parce que l'enfant ou le mineur n'a pas la volonté. Et donc le fait de contracter un médecin pour se faire dépister, il y a déjà un contrat et donc il donne sa volonté. Ça, c'est sur le plan des droits. C'était un problème parce que la loi spéciale ou ordinaire doit se conformer à la Constitution. Et la loi fondamentale reconnaît l'âge de 18 ans pour le mineur. Autre élément de fait, c'est un élément médical technique, c'est la continuité, la continuation de la prise en charge de l'enfant. Un enfant qui se fait dépister seul, mais qui doit être accompagné chez les parents, ça pose un problème. Il doit prendre son médicament, psychologiquement, il doit être accompagné spirituellement, alimentairement. Et donc, sa vie, c'est chez le parent. Et donc, ils ont dit, ça pose un problème si un enfant se fait dépister seul et que de l'autre côté, les parents doivent l'accompagner, doivent l'encadrer parce qu'il est mineur.
Donc, maître Serge Tamundele, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
La MONUSCO travaille pour stabiliser le pays, ramener la paix à Bijombo. Le commandant des forces onusiennes, le lieutenant général Martin Filot, l'a réaffirmé la semaine dernière. Il était de retour d'une mission d'inspection des troupes de la MONUSCO déployées dans les hauts plateaux de Bijombo, en territoire d'Ouvira, au sud Kivu. Dans cette région où sont rapportées des violences intercommunautaires, le lieutenant général Martin Filot est allé se rendre compte de l'évolution de la situation sécuritaire. Si on a besoin de notre présence, de notre intervention à n'importe quel coin de la région, nous serons en mesure de nous y retrouver, a-t-il notamment affirmé. Après Uvira, nous nous rendons à Mwanza, à près de 200 km à l'ouest de Matadi. La plateforme des organisations des droits de l'homme de ce territoire invite la direction générale de la CVM, la Congolaise des voies maritimes, de payer ses travailleurs leurs 17 mois d'arriéré de salaire. Selon Willy Hiloma, président de cette plateforme de droits de l'homme, il s'agit d'un droit que la direction de la CVM doit résoudre. Il invite la direction de l'entreprise à s'abstenir des menaces vis-à-vis de ses agents. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, a présenté mardi 17 juillet un projet régional dénommé Partenariat pour la conservation de la biodiversité, financement durable du système d'air protégé dans le bassin du Congo au ministre du Développement Rural. Ce projet vise à améliorer le financement du système des aires protégées dans la sous-région. Il couvre 6 pays d'Afrique centrale, dont la RDC. Le PNUD table sur la participation de l'État congolais, le secteur privé et la société civile pour la viabilité financière à long terme de ce projet qui est sous la juridiction de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Enfin, réfugiés centrafricains en Orubangui, le ministère de l'Intérieur, à travers la Commission nationale pour les réfugiés, a lancé jeudi 2 août 2018 l'opération de contrôle physique et de remise des cartes d'identité aux réfugiés centrafricains pensionnaires du camp Dinké dans la périphérie de la ville de Badelité. L'USR est impliqué dans cette opération. L'administrateur du territoire, assistant de Moba Mbongo, a présidé la cérémonie officielle de cette activité qui s'étendra dans d'autres camps de réfugiés de cette province ainsi que de la province voisine du Sud-Ubangi. L'opération cible aussi les réfugiés centrafricains vivant dans des familles d'accueil.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, a soutenu la tenue à Kananga du 30 juillet au 3 août 2018, une session de formation des femmes candidates de la province du Kasaï central, une session organisée par le cadre permanent de concertation des femmes congolaises, CAFCO. En marge de cette session, Madame Adolphine Kabedi, présidente locale de la CAFCO, s'est entretenue avec Blaise Ndongala Mayanda. C'est elle, notre invitée. Suivez.
Bonjour Madame Adolphine Kabedi.
Bonjour Monsieur les journalistes.
Les cadres permanents des concertations des femmes congolaises, CAFCO, organisent une activité de 5 jours à l'intention des femmes candidates. Qu'est-ce que vous visez en organisant une telle activité?
Ok, merci beaucoup pour la question, Monsieur les journalistes. Vous savez que si quelqu'un veut faire quelque chose de bon, doit se préparer. C'est ainsi que CAFCO National a pensé à venir renforcer les capacités des femmes candidates et les organisations féminines dans le Kasaï central. Parce que si on ne se prépare pas, surtout ce qui concerne nos candidates, elles vont se retrouver sur terrain en manquant les mots à dire. C'est ainsi que, avec cette session de formation, on leur apprend à bien se présenter, à bien parler, comment se maintenir devant la population. Voilà la raison pour laquelle on est dans cette session de renforcement des capacités. Et les organisations féminines, c'est pour les accompagner. Nous allons les accompagner jusqu'à la fin de l'échéance électorale.
Quels sont les différents thèmes qui seront développés au cours de cet atelier des 5 jours?
Les modules retenus sont les suivants. D'abord, nous avons la carte d'identité de la candidate. Nous avons la communication politique, règles du pouvoir, stratégie des campagnes électorales. Et ce sont les thèmes qu'on a vus le premier jour. Je pense qu'en observant les femmes dans la salle, elles étaient vraiment contentes, outillées. Elles étaient contentes d'être formées et informées. Donc voilà, nos activités continuent. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. On va parler sur les règles du pouvoir. Et après, il y aura les étapes différentes que nos facilitateurs vont nous communiquer.
Combien de femmes prennent part à cette activité?
Avant de commencer l'activité, on est allé se renseigner auprès de la CENI. Nous avons eu un nombre de 27 femmes candidates pour les élections provinciales. Les femmes au niveau national, jusque-là, on n'a pas encore eu la liste définitive, mais les partis politiques nous ont envoyé leurs femmes candidates avec un mandat. Mais jusque-là, on n'a pas déterminé le nombre.
L'atelier concerne toutes les femmes candidates du Kasaï central ou seulement les femmes du Kananga?
Je peux vous dire que lorsqu'on avait estimé, comme nous n'avions pas le moyen d'aller jusqu'à l'intérieur de notre province, cela concernait seulement les femmes qui sont en ville, mais celles qui ont possédé dans nos territoires, qui résident en ville, avaient la toute possibilité de venir assister à cette formation.
Est-ce que CAFCO pense aussi répercuter ces messages à travers les 5 territoires de la province?
Oui, nous allons le faire. Nous allons le faire parce que c'est notre devoir. On ne peut pas choisir une catégorie de femmes candidates. Non, c'est toutes les femmes candidates qui doivent être informées et formées. Je pense qu'on aura à continuer la sensibilisation, à continuer la formation pour d'autres femmes candidates qui n'ont pas eu la chance de venir assister à cette formation.
Quels sont selon vous les grands défis des femmes centricassaïennes en général et celles engagées au processus électoral en cours?
Aux femmes candidates, nous leur disons ceci. Vous avez eu le courage de vous présenter comme candidate. Ne reculez pas. Il faut faire tout pour vous approprier le pouvoir politique. Donc, avec la matière qu'on est en train de voir, les femmes se sont engagées. Elles disent que nous allons tout faire. Le problème en est ceci, messieurs les journalistes. Les candidates sont là, mais les électeurs et électrices, est-ce que les hommes peuvent voter pour la femme? Est-ce que toutes les femmes peuvent voter pour leur concert? C'est ainsi que nous demandons à la population kassaïenne de pouvoir soutenir ces femmes qui se sont montrées courageuses. Comme ça, on aura à équilibrer dans nos institutions politiques.
Quel message pouvez-vous adresser à toutes les femmes de l'espace kassaïen?
Aux femmes candidates, qu'elles tiennent forte, qu'elles s'assument des responsabilités. Lorsqu'elles seront votées, quel sera le travail d'une femme députée provinciale ou nationale? Qu'elles ne visent pas leurs intérêts, qu'elles visent l'intérêt de la population qui va bientôt là les voter. Et qu'elles aient un langage convaincant, parce que promettre des choses qui ne vont pas se réaliser, ça sera l'utopie. Et aux autres femmes, de soutenir les femmes. Nous devons soutenir les femmes qui se sont montrées courageuses pour faire la compétition avec les hommes.
Madame Adelphine Kabedi, Radio Okapi vous dit merci.
Merci à la Radio Okapi.
Nous restons sur cette session de formation sur les élections de la CAFCO à Kananga, organisée avec l'appui financier et logistique du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. L'objectif était de préparer les femmes leaders et candidates aux futures élections à la gestion de la chose publique. Différents acteurs de la société civile, du Conseil central, se sont exprimés sur l'opportunité de cette activité. Encore une fois, le dossier avec Blaise Ndongala Mayanda.
Elles sont plus de 60, ces femmes du Conseil central, candidates aux prochaines élections provinciales, leaders des associations féminines et politiques qui participent à cet atelier de 5 jours. Cette activité porte sur les stratégies devant leur permettre de gagner les élections à venir. À l'initiative du cadre permanent des concertations des femmes congolaises CAFCO, avec l'appui financier et logistique du PNUD, cette activité vise notamment l'élection de nombreuses candidates aux prochaines élections. Les participantes sont formés sur plusieurs thématiques, dont la communication politique, les règles du pouvoir et les stratégies des campagnes électorales. La présidente nationale du CAFCO est persuadée que cette formation donnera sans doute aux participants les stratégies d'action politique en vue de se positionner à l'approche des échéances électorales qui s'annoncent rudes. Rose Mutombo.
Cette formation, il est nécessaire de le rappeler, est la poursuite des efforts enclenchés depuis l'année dernière à Kinshasa, où nous avons formé plus de 300 femmes leaders sur les stratégies efficaces pour une victoire électorale et pour améliorer leur capacité de prendre la parole en public, de gérer les personnes difficiles et de bien élaborer leur stratégie d'action politique. C'est pour cette raison que je vous invite à la lucidité et à la liberté de parole pour partager les meilleures pratiques et ainsi vous positionner dans ce champ politique difficile où les hommes et les normes sociales et le manque de ressources financières peuvent devenir véritables obstacles au leadership de la femme.
Pour les représentants du PNUD au Grand Kassai, cet atelier s'inscrit dans la ligne droite et renforcement des capacités des acteurs et actrices pour une gestion harmonieuse de la chose publique. Il offre également aux femmes candidates l'occasion d'affronter les élections à venir avec succès.
Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du mandat du PNUD de renforcer les capacités des acteurs et des actrices
pour atteindre des objectifs de développement, agenda auquel le gouvernement et les Nations Unies ont souscrit pour faire de la RDC un pays où les hommes et les femmes vivent heureux. Si les hommes et les femmes ne travaillent pas ensemble et ne décident pas ensemble, il est difficile d'arriver à un développement profitable à tous. Ces élections attendues de tous sont une opportunité pour renforcer la participation politique des femmes et leur présence dans les chambres de prise de décision.
Une chose est certaine, dans la région du Kasaï, les nombreuses femmes ne s'intéressent pas à la vie politique. Par conséquent, la représentativité féminine aux échéances électorales est très faible. Des Canada, Blaise Ndongala Mayanda, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et la question de ce dimanche concerne le décalage entre la formation des soldats et policiers congolais et le nombre de violations des droits de l'homme dont ils sont auteurs.
Est-ce que le gouvernement évaluer ensemble avec, parce que ça tend à nous mettre devant une confusion gravissime, d'autant plus que vous continuez à former, mais les cas des violations des droits de l'homme continuent à monter et nous craignons fort que vous concentrez beaucoup plus de fonds pour former les militaires et policiers qui sont les premiers garants de ces cas de violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, ce sont des mauvais élèves ou ce sont des mauvais professeurs. Ça ne va pas en tout cas.
Vous posez une question très très pertinente qui est relative à l'impact ou les effets des formations qui sont injectées en vue réellement d'induire un changement de comportement. Je voudrais rappeler que la République démocratique du Congo compte l'une des plus grosses armées ou forces de police en Afrique. On parle de plus de 300 000, donc c'est énorme. Les formations que nous donnons constituent une goutte d'eau quelquefois dans l'océan, au vu du nombre des effectifs. Il y a quelques améliorations qui ont été notées. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour assurer une meilleure maîtrise du commandement, du contrôle sur les opérations. Il y a un institut qui existe à Kinshasa qui a été créé et beaucoup d'officiers de haut rang de l'armée participent à ces cours-là qui vont contribuer dans un certain sens à améliorer un peu la maîtrise du commandement et la conduite des opérations. Mais évidemment, nous sommes dans un contexte de conflit, il y a des problèmes structurels qui se posent. Je l'ai dit et je l'ai répété la dernière fois, ça ne peut pas justifier du tout les violations des droits de l'homme que nous documentons et dénonçons à longueur de rapport, mais réellement, il y a des efforts à faire dans ce sens-là. Des efforts structurels pour professionnaliser cette armée, pour professionnaliser les unités de police. Et ça, la MONUSCO travaille là-dessus. Nous, dans le cadre de notre mandat, nous y travaillons parce que nous injectons de la formation, nous injectons de l'appui technique dans ces éléments-là pour induire un changement de comportement. Mais quelquefois, évidemment, il faut aussi une durée un peu plus longue pour pouvoir sentir les effets de toutes les formations qui ont été menées.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Notez que le 9 août, c'est la journée internationale des populations autochtones. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de votre magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tila Salama, mise en onde par Jean-Claude Ntiala, à la coordination, reportage et réalisation, Jean-Pierre Elali Coco, au reportage également, Honoré Missinga Talala, sous la supervision de Martin Sebujangoué. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur Radio Capi. A bientôt, ciao.